Radio Elvis à l'instant sur la première, 23 minutes, c'est à peu près le temps qu'on a tient pour évoquer à présent la relation entre patient et personnel hospitalier. On va le faire avec cette question, que faire lorsque cette relation s'envenime, Stéphane Delétro?
Eh bien la réponse apportée par le CHUV, c'est l'espace patient et proche, un espace où depuis bientôt 8 ans, les reproches, doléances ou incompréhensions peuvent librement s'exprimer, des confidences recueillies par 4 médiatrices et médiateurs.
Bonjour Béatrice Yad.
Bonjour.
Vous êtes la chef du service de la communication du CHUV, c'est vous qui êtes à l'origine de l'ouverture de cet espace. Quel en a été le déclic finalement?
Alors le déclic, c'est que quand j'ai commencé à travailler au CHUV, très souvent quand je croisais des gens comme ça, même à l'extérieur, on me disait « Ah, mais je vais t'en raconter une belle de ce que j'ai vécu ». Et puis en fait, c'est une personne dont l'enfant passait aux soins palliatifs qui a créé un peu le déclic, parce que en fait, elle a été reçue dans un local qui n'avait pas été réservé, donc il y avait plusieurs personnes qui entraient, qui sortaient pendant l'entretien. Le téléphone portable de la personne qui lui annonçait en fait que son enfant allait décéder n'avait pas été mis sur mode avion, donc elle a reçu 3 coups de fil pendant l'entretien sur des enfants qui allaient bien. Donc cette mère m'a raconté finalement toute une série de problématiques, y compris le jargon médical qui faisait qu'à un moment donné elle s'était sentie maltraitée en fait. Et puis ça a provoqué un déclic et puis il y avait aussi toute une série de papiers qui sortaient chaque année sur le CHUV, qui en fait avaient un dénominateur commun, c'est que les gens qui s'exprimaient dans ces papiers, manifestement ils n'avaient pas trouvé à l'interne à qui raconter leurs difficultés. Donc c'est un peu tout ça qui a créé le déclencheur.
C'est ça. Donc cet espace qui est créé, on le disait, il y a 8 ans, en gros il fonctionne comment? C'est quoi l'idée?
Alors l'idée, c'est que c'est un accès à bas seuil, c'est-à-dire qu'on peut y aller sur rendez-vous ou alors passer à la permanence. Donc il y a des médiateurs qui sont là 4 jours par semaine, 4 après-midi. Vous pouvez, si vous avez rencontré une difficulté, venir en parler. Et l'idée, c'est de travailler avec le médiateur à élaborer une solution. Ces médiateurs interviennent toujours en seconde ligne. Ça veut dire qu'ils s'assurent toujours que les patients ou les proches ont essayé de parler avec les équipes de prise en charge d'abord. C'est vraiment un principe très très important, parce que c'est quand la relation devient difficile que les médiateurs interviennent pas. Ils interviennent pas au premier chef, quoi.
Alors l'espace a enregistré 645 sollicitations, c'est une hausse de 9% pour plus de 50 000 patients hospitalisés, il faut quand même le préciser. 9% de hausse l'an passé, c'est-à-dire que la relation soignant-soigné s'est détériorée?
Non, je pense que ce qui a changé, c'est que les institutions mettent à disposition des endroits pour parler des difficultés. Ça a changé. Et je crois qu'aussi les institutions ont compris, à la faveur de toute une série de facteurs d'évolution, notamment sociologique, que le juridique, c'est pas forcément la solution, que le juridique, c'est très abrasif, et puis que souvent, ça répond pas finalement aux problématiques qui se posent en milieu hospitalier. Quand on a ouvert cet endroit, on nous a beaucoup dit, ah oui, mais on aura plus de plaintes, plus de demandes de réparation financière. Puis en fait, ce qu'on voit dans la littérature, c'est que les gens qui viennent de déposer une doléance, en fait, ils ont envie d'une réparation financière que dans 7% des cas. Par contre, 41% veulent des excuses et puis 62% veulent des explications. Donc finalement, c'est de ça dont il est question. C'est aussi des patients qui ont changé de profil, qui sont plus documentés, qui se documentent sur Internet avant d'aller en consultation, des proches qui suivent des patients chroniques, puis qui deviennent des vrais pros de la maladie. Et tout ce monde-là, finalement, est dépositaire d'une forme d'expertise. Et puis, c'est cette expertise qui entre en confrontation parfois avec la position du professionnel de la santé.
Alors, les patients, ça représente à peu près la moitié des sollicitations, un tiers les proches, le reste, c'est le personnel?
Oui, alors ça, c'est pour nous, c'est aussi important de le souligner, c'est qu'il y a toute une partie, ça c'était une surprise, de professionnels qui viennent dans cet endroit parce qu'ils rencontrent une difficulté avec les patients. Et ça, c'est aussi nouveau. Enfin, ce dont on s'aperçoit, c'est que les patients, finalement, ils ont des relations conflictuelles avec les professionnels qui les prennent en charge. Et il y a une forme aussi, il faut le dire, quoi, d'incivilité qui est des fois très difficile à vivre pour les professionnels.
Alors, vous le disiez, hein, les personnes qui font appel à l'espace patient et proche, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas forcément pour se plaindre d'une erreur médicale. C'est même les cas les plus rares, c'est ça?
Exact. Bah, alors, les plus rares, en tout cas, oui, c'est absolument minime. Là encore, quand on a ouvert cet endroit, on nous a dit, oh, ça va révéler toute une série d'erreurs médicales. Mais en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que les patients et les proches, ils sont très compréhensifs à l'égard de ce qu'ils perçoivent comme des erreurs médicales. Alors, nous, à part ça, il faut dire qu'on fait pas d'investigation. Donc, les gens pensent que c'est une erreur médicale. On s'intéresse à eux parce qu'ils la perçoivent comme telle, mais c'est pas comme une unité des affaires juridiques qui va faire toute une investigation pour voir où sont les responsabilités. Nous, en fait, il suffit que quelqu'un dise, ben voilà, j'ai un sentiment qu'il s'est produit quelque chose d'anormal pour qu'on s'y intéresse. Mais c'est vrai aussi que notre surprise, c'était de voir que les patients et les proches qui viennent dans cet endroit se plaignaient 4 fois plus souvent de problèmes relationnels que de problèmes techniques. Et puis, il y a plusieurs facteurs, mais probablement aussi que ce qu'on voit, c'est que les patients et les proches sont très compréhensifs à l'égard de ce qu'ils perçoivent être des erreurs médicales. Ils disent que la médecine, c'est compliqué, puis que l'erreur, c'est humain. Par contre, l'erreur relationnelle, ça leur pose plus de problèmes qu'avant. Et c'est vrai que c'est aussi plus simple de se plaindre d'un problème relationnel que d'un problème technique. Hein, donc, ça explique aussi le nombre.
Donc, relationnel, manque d'écoute, sentiment de ne pas être considéré comme partenaire. Ouais. Donc, les gens qui viennent, ils expriment souvent, dans un premier temps, d'ailleurs, on va l'entendre tout à l'heure, de la colère.
Alors, la colère, ça peut être ça. Ça peut être aussi de la tristesse, simplement que les choses se soient passées de cette manière et pas comme ils l'avaient imaginé. On pense, par exemple, dans le domaine de la maternité, ça arrive. De la honte aussi. Il y a des patients qui, quand on a investigué, disaient qu'ils avaient, pour eux, ça avait été compliqué de venir déposer une doléance contre l'équipe de prise en charge qui les avait soignés. C'est pas facile, hein, de la même manière que c'est pas facile de déposer une plainte juridique. Et c'est pas facile non plus dans l'autre sens pour les professionnels de parler d'un patient avec lequel on a un conflit. C'est effectivement une réalité.
Et on a.
Oui, allez-y, Stéphane.
Et on attend des excuses? Généralement ?
Alors non, majoritairement c'est plutôt des explications et puis c'est la force de la médiation, c'est que chacun peut exprimer son point de vue, chacun peut expliquer son vécu de la situation et c'est ça que la médiation permet, hein, contrairement aux affaires aux juridiques.
Du côté des professionnels, là on évoquait plutôt le point de vue des patients, du côté des professionnels, on les sollicite pour présenter des excuses, est-ce que c'est quelque chose de facile à faire ou au contraire
une
difficulté?
Je pense que de manière générale, et ça c'est pas propre au CHUV, c'est propre à la profession de soignant, s'excuser c'est toujours aussi marqué du risque juridique, donc c'est pas forcément très courant et c'est pas forcément enseigné comme tel. Par contre, ce que les professionnels font très volontiers, et puis faut s'imaginer que c'est aussi des gens derrière les blouses blanches, hein, ils expriment des regrets. Ils expriment le regret que les choses se soient passées de cette manière. C'est souvent tout à fait suffisant. En fait, les gens qui viennent dans cet endroit, ils ont envie d'être reconnus, vus, compris dans ce qu'ils ont vécu. Et quand un professionnel exprime ça, le regret que ça se soit passé de cette manière, l'excuse n'est pas forcément nécessaire, quoi.
CQFD s'intéresse aujourd'hui aux relations parfois tendues entre médecins, professionnels de la santé et patients, et à l'espace patients et proches du CHUV, un lieu propice donc à la parole qui libère finalement, Stéphane.
Oui, cet espace, Manuel Arocha l'a fréquenté suite à l'hospitalisation de son mari en décembre 2016. Voici son témoignage.
Depuis le début de la maladie, nous avons dû affronter de multiples problèmes dus principalement au manque de communication, patient-médecin, famille-médecin et même entre médecins. Donc ça a été très compliqué et on a dû faire face à 2 événements marquants qui m'ont le plus traumatisé.
Ces événements marquants, c'est tout d'abord l'annonce de la récidive du cancer de votre mari.
Oui, c'est vrai. C'est simplement que nous ne nous y attendions pas. Fin décembre, on nous avait annoncé un miracle au CHUV. Et tout à coup, on se trouve devant 7 médecins, comme devant un tribunal. Et c'était une annonce très, très brutale. Donc, choc et désarroi.
Quand vous dites très brutal, c'est dans la forme. On n'a pas mis des gants, vous annoncez ça de but en blanc?
Exactement. On aurait pensé être dans une petite pièce, mais là, devant 7 médecins, on était complètement perdus.
Alors ça, c'est le premier reproche que vous feriez au CHUV. Le deuxième, c'est un peu plus tard, lorsque la situation s'est vraiment très aggravée.
Oui, c'est le moment où mon mari, à la fin, où tout était terminé, plus de soins possibles, et il souffrait beaucoup, il a demandé les soins palliatifs. Et là, ce qui s'est passé, c'est que le médecin a dit qu'il s'en chargerait. Ça n'a pas été le cas, ils ne sont arrivés que quelques jours plus tard. Et pendant ce temps, l'attente était vraiment insupportable. On le voyait souffrir, et malgré nos multiples interventions, rien n'a été fait. Et les soins palliatifs sont arrivés le jeudi, et toutes ces souffrances ont été terminées dès que cela s'est passé.
On vous a expliqué pourquoi il y avait eu ce laps de temps, ce délai ?
Ben oui, mais cela s'est passé lorsque je me suis adressée à l'espace patient. J'ai eu mes réponses.
Suite à ces deux événements, quel était votre état d'esprit ?
Une grande colère et une très grande rage. C'est vrai, je ressassais tous ces événements en boucle et j'arrivais pas à m'en sortir. Et je crois que même un mois auparavant, j'en parlais à ma fille et je disais, il faut qu'on trouve une solution parce que je ne fais que de parler de ça. Ça m'obsède. Et ma fille a trouvé une solution parce qu'elle avait une collègue qui avait un professeur qui était à l'espace patient.
Et donc, vous avez fait appel à cet espace patient. Combien de temps après le décès de votre mari ? C'était assez rapide ?
Je dirais 2 mois après. Oui, c'était assez rapide.
Premier contact, comment ça s'est passé ? Vous vous en rappelez ?
Ah oui, magnifique. J'ai tout de suite été écoutée, comprise, et j'ai pu ainsi dire tout ce qui m'obsédait. Et vraiment, ça s'est bien passé.
Alors, possibilité de se confier, puis aussi possibilité de dialoguer avec les médecins à qui vous aviez certaines choses à reprocher ?
Oui, je pense que nous avons eu 3 séances. La dernière a permis de trouver une piste pour que je puisse régler ces problèmes, c'est-à-dire la confrontation avec ces 2 médecins. Et ces 2 médecins ont accepté, et je leur en suis reconnaissante.
Et comment ça s'est passé, cette confrontation ?
Très, 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 très bien. Ils m'ont écouté. Ils ont vraiment compris la situation, ils ont regretté et se sont excusés. C'est tout ce que je demandais.
Vous vous sentiez un peu plus libérée ?
Ah, mais totalement libérée. C'était plus une obsession après. J'avais mes réponses. Et j'ai compris comment la situation et leurs excuses m'ont suffi.
Si on revient juste à cette partie d'entretien avec les gens de l'espace patient, c'est une vraie écoute ?
C'est une vraie écoute, totale. Et ils ont vraiment compris. Ils n'avaient pas grand-chose à dire, mais ils m'ont donné des explications aussi. C'est que, par exemple, le premier médecin, il m'a dit qu'il ne se rendait pas compte. Il pensait que j'étais plus forte, mais il s'en est souvenu de cette situation. Parce que lorsqu'il était arrivé à l'espace patient, il ne savait pas si c'était moi ou ma fille, mais il n'avait pas oublié ce problème qui s'était passé plus d'une année auparavant.
Et puis le deuxième médecin, vous avez dit que vous aviez eu une réponse par rapport au fait qu'on avait attendu pour les soins palliatifs.
Ben lui, il a simplement expliqué qu'il pensait que ses services pourraient assumer le rôle des soins palliatifs. Voilà. Et donc, il a vu qu'il s'était trompé.
Alors, ça c'était la démarche. Il y a eu une deuxième démarche, puisque vous avez accepté d'être filmé, de raconter votre histoire. Pourquoi avoir accepté ça ? Pourquoi avoir fait ce pas supplémentaire ?
Depuis le début, je pensais aussi aux autres personnes qui subissaient la même situation. J'ai entendu beaucoup de personnes qui avaient un nombre de problèmes pas possible. Et pour moi, c'était l'espace patient, c'est juste comme un endroit idéal pour régler ce genre de problème.
Et là, il y a quelque chose qui est quand même, on peut le dire, un peu exceptionnel. C'est que l'un des médecins avec qui vous aviez eu une confrontation a accepté aussi de figurer sur cette vidéo. C'est une belle démarche.
Oui, je ne pense pas que tous les médecins seraient capables de le faire. Et il l'a fait. Et pour moi, c'était juste quelque chose de formidable de sa part.
Avec le recul maintenant, le conseil que vous donneriez à des patients qui ont eu un problème à l'hôpital ou ailleurs d'ailleurs, ou avec un médecin, c'est parlez-en et faites appel aux professionnels, ça vaut vraiment la peine.
Et oui, c'est simplement ça. C'est qu'il faut réagir parce que je connais beaucoup de personnes à qui j'ai dit, mais parlez-en, allez à l'espace patient, et je sais qu'ils ne feront pas. Et donc moi, j'ai eu la chance de pouvoir me libérer d'une charge très lourde, c'est-à-dire que je serai toujours reconnaissante aux médiateurs que j'ai rencontrés à l'espace patient.
Béatrice Chade, chef du service de la communication du CHUV, le témoignage de Manuela Rocha qu'on vient d'entendre, que nous remercions évidemment, c'est un témoignage emblématique de ce qui se passe à l'espace Patients et Proches.
Oui, tout à fait. C'est tout à fait représentatif aussi du cheminement. Et je trouve intéressant parce qu'elle raconte très très bien comment elle a pu, avec les médiateurs, finalement dégager des pistes qui étaient celles qui lui avaient posé problème. En cet endroit, l'idée c'est aussi que les patients prennent leurs responsabilités par rapport à la situation. Et Madame Rocha, c'est tout à fait ce qu'elle a fait, c'est qu'elle avait, comme elle dit, elle était obsédée par la situation, et puis elle a trouvé le moyen d'en sortir en parlant de ces deux pistes. Ce que je trouve aussi joli, c'est qu'elle relève que le médecin aussi est entré en matière, et c'est vrai qu'il a fait un témoignage qu'on utilise aussi maintenant dans les cours, on le montre aux jeunes étudiants en médecine, et c'est vraiment très très précieux que les professionnels acceptent de témoigner, parce qu'elle le dit très bien, lui il s'en souvenait aussi, un an après, il savait exactement de quelle situation il s'agissait. Donc, on croit des fois que les professionnels sont que des fonctions, mais on est bien loin du compte. Ils vivent les choses aussi, les situations de conflit ou de tension douloureusement.
Alors, on a vu le point de vue des patients, celui du personnel hospitalier. Qu'est-ce qu'il en est de l'institution ? Que fait l'hôpital de ces réclamations ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu maintenant créer une espèce de boucle de rétroaction, c'est-à-dire qu'on rend à l'institution le témoignage des patients et des proches, mais aussi des professionnels. En fait, ce sont les médiatrices et le médiateur qui dégagent des tendances lourdes de problèmes qui sont récurrents dans l'institution. Et puis, en fait, on les restitue au bureau de la qualité, en fait, qui s'occupe de définir des projets d'amélioration de la qualité. Et puis, ces données, elles sont aussi restituées dans les services qui créent des projets d'amélioration. Sur la base de ces témoignages.
Donc les choses vont aller vers le mieux, c'est ça que vous êtes en train de nous dire.
Oui, enfin en tout cas c'est la relation qui peut aller vers le mieux. On le voit bien et puis pour les patients et les proches, c'est aussi très précieux de savoir que leur témoignage finalement est utilisé par l'hôpital pour s'améliorer. Parce que les patients et les proches, ils voient des choses qui sont pas forcément apparentes dans les questionnaires de satisfaction. Et ça c'est vraiment intéressant de voir qu'ils repèrent des choses dans des dysfonctionnements qui nous sont pas apparents par d'autres outils de veille de la qualité, et ça c'est vraiment très très utile quoi.
Alors Béatrice Chade, vous êtes depuis l'été passé professeure titulaire à la faculté de biologie et de médecine de l'université de Lausanne, en charge de l'étude des relations entre patients et professionnels à l'hôpital. C'est bien la preuve, une preuve de plus que l'on prend en compte cette problématique.
Oui, alors c'était vraiment une grande chance que l'université de Lausanne, l'Institut des humanités en médecine et le CHUV décident de créer un poste, hein, parce que c'est un domaine qui n'existait pas dans le milieu académique. Et puis c'est effectivement le signe que voilà, c'est un nouveau domaine, c'est un domaine d'intérêt, de recherche et d'enseignement. Maintenant, on développe vraiment beaucoup d'enseignement là autour. Et on voit que pour les étudiants, ils sont vraiment intéressés par le témoignage des patients et des proches et de l'effet qu'ils ont sur les patients et les proches selon les attitudes qu'ils adoptent.
Donc ils suivent des cours vraiment dans ce sens. Alors ouais, c'est ça, hein, vous les impliquez. Mais ça veut dire toutes les étudiantes et tous les étudiants en médecine passent par ces cours, ou bien c'est un choix, c'est des cours
Non, on les voit tous quand ils passent en médecine interne, en quatrième année. La semaine passée, on a donné un cours pour ceux qui prennent le module de médecine générale aussi. Et puis tranquillement, on est en train de développer toute une offre. On va aussi mettre sur pied un cours autour de la place qui va rester aux médecins quand l'intelligence artificielle aura pris ses aises, et puis qu'elle, déjà aujourd'hui, elle peut produire des diagnostics extrêmement perfectionnés sur la base d'une littérature qu'aucun être humain serait capable de lire en une vie, et donc ça interroge sur l'avenir du métier de médecin. Donc on va développer aussi un cours avec Jacques Follet qui est à l'EPFL et au CHUV.
Et sur quoi vous travaillez plus précisément là maintenant ?
Alors maintenant, on développe aussi un travail de recherche sur les signes de gratitude. On s'est beaucoup intéressé à l'insatisfaction, mais on s'aperçoit que dans les remerciements des patients et des proches, il y a une belle matière aussi pour que l'hôpital apprenne ce qui marche bien selon les patients et les proches. Donc on travaille beaucoup là-dessus.
Merci en tout cas d'être venu aujourd'hui dans CQFD pour évoquer cet espace qui existe au CHUV. Il existe dans d'autres hôpitaux, à votre connaissance?
Oui, alors tous les hôpitaux universitaires ont des centres de médiation. On fonctionne tous un peu différemment les uns et les autres, mais il y en a dans les 5 hôpitaux universitaires. Et il y en a aussi à l'hôpital Chablais-Riviera, qui a repris le même modèle que chez nous, par exemple.
Un nouvel hôpital créé dans le canton de Vaud. Merci beaucoup Béatrice Yad, chef du service de la communication du CHUV et donc professeur à la faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne.